panorama économique.
Je vous salue, messieurs et dames, et vous souhaite la bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur votre radio, Les Titres. Le Forum international de Kinshasa, KINFOR, édition 2016, organisé par l'association belge Africa Rise, a vécu cette semaine dans la capitale. Nous revenons sur les grands moments de ce KINFOR 2016. Le territoire de Walikale est menacé d'enclavement total. À la base de cette situation, la destruction de 6 ponts sur l'axe Walikale-Massissi-Goma, Walikale-Lubutu-Kisangani et Walikale-Ombo-Bukavu, selon l'administrateur du territoire, malgré les travaux de cantonnage manuel qui s'effectuent, ces tronçons se détériorent de plus en plus. Les matières premières dans cette émission, nous allons revenir sur la saisie par le CEC de 22 camions qui étaient sur le point de traverser frauduleusement la frontière avec des minerais et la visite du commissaire spécial adjoint de la province du Haut-Katanga qui était allé se rendre compte de la situation sur place. Voilà pour les titres de notre magazine de ce samedi. Notre invité de la semaine s'appelle Félix Walesa, il est président du Fonds d'investissement de Congolais expatriés. Il intervient dans cette émission au téléphone depuis la ville de Montréal, c'est au Canada. Philippe, vous êtes en ligne, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, il est 9h01 ici à Montréal et il neige beaucoup.
Voilà, il neige beaucoup au Canada. Bienvenue à vous dans cette émission. À tout à l'heure pour le dossier de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Le dossier, la synthèse de la semaine. Kinshasa a abrité mardi et mercredi la première édition de KINFOR 2016 sur le Kinshasa International Forum, le forum international de Kinshasa. C'était des rencontres d'affaires entre les opérateurs économiques organisées par l'association belge Africa Rise. Pour son président, la tenue des forums B2B est devenue pour les États qui aspire à l'émergence, un passage plus qu'obligé. Écoutez plutôt Christian Liongo.
Tous les pays, notamment africains, qui ont une vocation à devenir des pays émergents, hébergent, chacun sans exception, des forums B2B internationaux. Je citerai très rapidement la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, le Nigeria. Et donc, Africa Rise, qui est un organisme belge et qui a déjà l'expertise d'organiser des forums B2B internationaux en Belgique, et à l'écoute des entrepreneurs congolais, a décidé de doter la République démocratique du Congo de cet instrument très important qui manquait à ce pays. Et donc, ce forum B2B international, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est vraiment d'essayer de construire ici en RDC à Kinshasa une plateforme internationale et incontournable de contacts d'affaires et de contacts B2B, de manière à ce qu'il y ait des partenariats qui puissent se créer ici. Et pourquoi pas, et c'est vraiment le but aussi, c'est que des partenaires congolais puissent transférer de la technologie ici dans ce pays. Et donc c'est vraiment cela que offre comme opportunité ce forum B2B international, le KINFOR, une vitrine économique pour la RDC. Le directeur général de l'INPP vient de le dire, à la base d'une émergence, il faut des emplois, il faut de la formation. Et donc, l'émergence de la RDC, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le social. En quelque sorte, développer un thème autour de cela était être en résonance effectivement avec ces deux mondes économiques et sociaux.
KINFOR 2016 a connu également la participation de plusieurs entreprises venues de la Belgique, du Québec et celles venues de l'Afrique. Lors de la deuxième journée, c'est-à-dire le mercredi, les agences de promotion des investissements du Congo-Brazzaville et de Kinshasa étaient à l'honneur. D'abord, le directeur général adjoint de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC, a présenté l'environnement économique du pays, marqué selon lui par une stabilité qui s'étend sur plusieurs années. Il a assuré ses interlocuteurs de l'accompagnement de l'ANAPI pour tous ceux qui seraient tentés d'investir au Congo-Kinshasa. On écoute Robert Mustapha.
La troisième mission, qui est moins connue par les sociétés, c'est la mission de plaidoyer en vue de l'amélioration du climat de l'affaire. Ça veut dire que vous pourrez être installé ici et vous êtes confronté à des tracasseries administratives, ce qui est souvent récurrent. Mais comment vous pouvez faire pour lutter ou pour obtenir une satisfaction par rapport à ces problèmes? la nappie est là, si vous saisissez la nappie, et que la nappie s'aperçoit que réellement les tracasseries administratives sont illégales, nous avons la latitude de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour décompter la situation. Alors, la dernière mission, qui est une mission importante, et je pense qu'il touche également à l'entrepreneuriat, c'est l'accompagnement administratif des investisseurs qui décident de s'établir ou d'étendre leurs activités sur le territoire national. C'est-à-dire quoi exactement? Vous venez en prospection, nous vous accompagnons. Vous voulez obtenir des licences particulières, la création d'entreprise, on a simplifié, en termes de coûts et de délai, on est à 3 jours, et pour une société, on est à $40, société à l'établissement public, les sociétés à l'anonyme, on va de 120 à 290, donc nous vous accompagnons. Vous voulez obtenir des exonérations, ce qu'on appelle des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers, nous avons le code des investissements. Si vous allez dans le site web, on a tous les détails là-dessus, et donc je pense que ça vous permet de... Parce qu'en termes d'entrepreneuriat, c'est que le code lui-même prévoit des incitations pour les PME et les PMI qui ont un coût d'investissement qui va de 10 000 à 20 000 dollars. Les grandes entreprises au-delà de 200 000 dollars.
La directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements API du Congo-Brazzaville, en tête d'une forte délégation d'entrepreneurs, a fait également la même chose, mais son souhait le plus ardent, formaliser les échanges commerciaux entre Brazzaville et Kinshasa, les échanges qui jusque-là sont encore informels. Écoutons à présent Madame Patricia Mungu de l'API Brazzaville.
Donc les investissements entre les deux pays, hein, je l'ai dit hier, nous sommes quand même les deux capitales les plus proches du monde et pratiquement nous nous tournons le dos en matière d'investissement, c'est pas normal. Donc nous sommes venus pour ça, pour dire que les entreprises congolaises peuvent investir en RDC et les entreprises congolaises du Congo Brazza devraient aussi pouvoir venir investir ici en RDC.
Donc je disais hier que vous avez donc à 15 minutes de chez vous le Congo Brazza. C'est un pays qui se développe bien, puisque en 2014 le taux de croissance a été de 0,4% et on a un taux de croissance moyen, donc sur les 5 dernières années, de 5%. Alors notre économie, c'est une économie qui est essentiellement basée sur le pétrole. Et en ces temps de chute du prix du baril du pétrole, évidemment, l'État fait un peu grise mine. Et l'API dit que à toute chose, malheur est bon. Ça va nous permettre enfin de diversifier notre économie. Ah, parce que tant qu'on avait le pétrole, on dormait un peu sous nos lauriers. Et aujourd'hui, effectivement, on a eu un coup de massue et ça nous a réveillés. Et aujourd'hui, nous allons vraiment pouvoir diversifier notre économie dans des secteurs qui ont déjà été identifiés donc dans notre plan national de développement, comme l'agriculture, c'est très important, comme les mines, comme le tourisme, comme les BTP, et on construit beaucoup en ce moment au Congo Brazza, et je pense qu'il pourrait y avoir des opportunités pour les entreprises de la RDC, parce que je sais quand même que ces entreprises ont un certain savoir-faire hein, dans le domaine de la construction. Donc je pense qu'il y a matière hein, dans les contrats de sous-traitance pour les entreprises de la RDC, également dans le domaine des services.
Voilà, un peu comme ça, ramasser le dossier complet sur la première édition du Forum international de Kinshasa 2016. Panorama économique reçoit Philippe Walesa, je vous le disais, il est le président du Fonds d'investissement des Congolais expatriés. Il est avec nous dans cette émission, mais il est au bout du fil depuis Montréal au Canada. Philippe, vous êtes là, vous avez suivi la synthèse avec ce forum international de Kinshasa.
Oui, je voulais d'abord féliciter les gens qui ont permis en fait que on puisse retrouver les gens qui voulaient faire passer frauduleusement le métier de minerai de l'autre côté, c'est bien.
Nous allons y revenir.
Oui, le gouvernement en parle. Il en a fait vraiment, il voudrait vraiment maximiser ses ressources internes. C'est très bien, mais il devrait penser aussi à une prime d'encouragement pour certains corps de métier. Pourquoi ne pas recevoir une lettre signée par le président, adressée à un agent qui a peut-être reçu ce type de force-là? Alors, moi je pense qu'il faudra aussi utiliser la procédure d'octroi des primes d'encouragement. C'est vraiment bien. Souvent, quand je vais par route aux États-Unis, j'aime une phrase qu'on a mise dans la bouche de Obama. Il dit que ce qu'on a gagné avec sueur, on le défend avec honneur. Alors, je crois que ça peut aussi inspirer ces gens-là. Le problème de la population, c'est être motivé. Si on peut avoir confiance ou si la confiance...
Allô, Philippe?
Oui, vous m'entendez?
Oui, je ne vous entends plus. Je vous ai perdu un moment là. Je voudrais que vous reveniez d'abord sur le forum de Kinshasa. On va avoir le temps de revenir sur cette actualité liée à la saisie de 22 véhicules qui voulaient traverser frauduleusement les frontières de la RDC. D'abord, Kinfor.
Ok, merci beaucoup pour Kinfor. Moi, je dis que avant Kinfor, toujours dans le même mois, il y a aussi le magazine Optimum, si je prononce bien le mot,
oui,
qui venait aussi de la Belgique, toujours avec le même forum. Maintenant, c'est Kinfor. Moi, je voulais demander quels avaient été les contrats qui ont été signés, quels avaient été les ententes de partenariat qui ont été signés. Il faudra quand même qu'on puisse établir des outils d'appréciation. Mais c'est bien beau que les gens viennent. Mais est-ce que les gens ont été satisfaits? Ils ont répondu, ils ont été satisfaits à leur attente. Je ne crois pas. Et pour moi, je dis que ça ne sert à rien de multiplier des folklores comme ça si on ne peut pas avoir des résultats tangibles. J'aurais voulu qu'à la fin, qu'on nous montre des contrats qui ont été signés entre partenaires. J'aurais voulu qu'on montre les échanges commerciaux qui ont été établis. Mais sinon, ça risque de devenir un contexte comme tous les autres. Et je ne crois pas que ni la population, ni les hommes d'affaires congolais gagneront dans ce jeu-là. Pourtant, ce matin, je suis très content. J'ai vu que le fonds a été honoré par un magazine qui paraît depuis Paris. Il s'appelle African Bank. Et c'est un magazine de la banque et de la finance en Afrique. Je recommande aux gens de le lire. C'est l'édition de février, mars 2016. Il y a de très bons articles où on montre tous les problèmes de finances en Afrique. Et c'est là que vous voyez qu'il y a un problème, que les gens comprennent qu'ils doivent investir. Il faut qu'ils changent leur manière de fermer. Des folklores tels qu'ils font ou les autres là, moi je ne crois pas. Je voudrais aussi peut-être donner un exemple. En février 2015, il y a eu une conférence qu'on a organisée en Guangzhou avec les filles qui étaient venues de Londres. Mais aujourd'hui, quand elles sont rentrées, elles ont vécu la situation. Et dès qu'elles sont rentrées à Londres, je vous dis qu'elles ont organisé des contacts avec des professeurs congolais. Le 6 février, il y a une conférence qui se tient là-bas. Et la plus grande, ça sera le 19 février, le 19 mars 2016. Et il y a au moins 300 personnes au contact.
Je vous ai encore perdu. Est-ce que vous êtes là?
Je disais que je suis invité à cette conférence-là qui aura lieu le 19 mars à Londres, qui va réunir au moins 300 personnes. Mais au départ, c'était si londonien d'origine congolaise qui change, venait participer à la conférence que j'avais organisée en Guangzhou le 20 et le 22 avril 2015. Elles sont rentrées à Londres.
Mm-hmm.
Et je vous dis, elles ont réussi à convaincre le milieu congolais. Le 6 février, il y a au moins 90 personnes qui se réunissent pour voir comment investir au Congo. Et le 19 mars, là, il y a au moins 300 personnes. Et moi, je dis que ce qui est très important, c'est bien que les gens soient venus au Congo, mais il faut aussi que le Congo les aille aussi voir leur culture, voir comment les gens les ont. Vous allez trouver, par exemple, que pour ici, on n'est pas très négocié. Vous avez fixé votre prix à 100 dollars, 600 dollars. Vous ne pouvez pas commencer par 200 et négocier. On ne connaît pas la négociation. Il faut aussi que les Congolais sachent. Par exemple, il y a une compagnie, ce qu'on appelle Ouvrojol, qui fait des frites à partir des patates. Mais c'est les patates qui viennent des calories du nord ou ailleurs. Et c'est beaucoup plus recherché par rapport à la pomme de terre. Mais les Congolais peuvent s'organiser afin des patates douces, envoyer des conteneurs. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les crédits bancaires, les crédits documentaires, il suffit que ça arrive juste à un port. Ça peut être Matadi, ça peut être Dar es Salaam. On leur donne de l'argent. Alors, il y a beaucoup de manières à faire pour gagner l'argent,
mm-hmm,
en le faisant de manière collective.
Ok.
Et perdre du temps avec tous ces photos-là qui n'amènent pas de bon temps.
Ok, d'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps de prendre la suite de Panorama économique.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Les autres informations de la semaine, le territoire de Walikale, tend à être complètement enclavé. Nous sommes dans le Nord Kivu et pour cause, la destruction de 6 ponts sur l'axe Walikale-Masisi-Goma, Walikale-Lubutu-Kisangani et Walikale-Ombo-Bukavu. Selon l'administrateur du territoire, malgré les travaux de cantonnage manuel qui s'effectuent, le colmatage des grands bourbiers et la réparation de ponts nécessitent des gros moyens. Entre-temps, les populations sont confrontées à d'énormes difficultés car le territoire n'est plus ravitaillé en produits de première nécessité faute d'accès. Marie-Claire Bangwene est jointe au téléphone par Marc Fimbo.
À 70 km de Walikale Centre, il y a 3 ponts qui sont vraiment en état de délabrement très avancé et qui font que les véhicules ne passent pas. Pour qu'un véhicule passe, il faudra une ou deux semaines en passant par l'eau. Sur l'axe de Kisangani, il y a aussi l'état de délabrement qui n'est pas vraiment trop avancé, mais ça commence à se détériorer de plus. Si on arrive au niveau de Lubutu, il y a un pont qui est en train de se casser. Arrivé à Kisangani, dans la province orientale, au niveau de 31 km, c'est la même chose. Donc, ils font 2-3 jours, même une semaine parfois. Nous sommes totalement enclavés. Les opérateurs économiques souffrent pour acheminer les produits ici à Walikale. Ça nous pose un grand problème. La vie sociale est devenue très difficile. Et donc, pour trouver les produits manufacturés, ça devient très grave. La vie est devenue trop chère. Les parents ne parviennent pas à supporter la charge et le coût de la vie.
Panorama économique, matière première.
Matière première, le commissaire spécial adjoint de la province du Haut-Katanga s'était rendu lundi au poste frontalier de Kasumbalesa. Kasongo Kibale était allé lui-même se rendre compte de la saisie par le service de CEC de 22 camions transportant les minerais qui étaient sur le point de traverser frauduleusement la frontière. Une commission d'enquête a été mise sur pied par le Conseil provincial de sécurité pour rétablir les responsabilités. Retour sur les faits avec vous, Jean Gandou.
Au départ, c'était un contrôle de routine mené par le service du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification de matières précieuses et après de 3 semaines, indique une source proche de ce service. 30 camions ont été ciblés. 8 seulement étaient en ordre avec différents services de l'État. Les 22 autres ne l'étaient pas. Ils transportaient des minerais à l'état brut. Et pourtant, la sortie de ce type de minerais est déjà interdite. Ces minerais sont transportés dans des grands camions à immatriculation étrangère et nationale. C'est juste après la saisie de ces camions que les transporteurs ont cherché à remplir les formalités d'usage. Là aussi, ils ont fait des fausses déclarations, rapporte la même source. Arrivé sur place ce lundi, le commissaire spécial adjoint a pris la décision que tous ces camions qui traînent encore à la frontière soient ramenés au poste de whisky sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi. Jusqu'à présent, l'identité du propriétaire de ces minerais n'est pas encore connue. À ce sujet, l'opinion se demande comment ces camions ont pu traverser tous les points de contrôle sans être interceptés. Ainsi, pour tirer l'affaire au clair, le Conseil provincial de sécurité a mis sur pied une commission d'enquête. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Merci Jean Gandou et très bonne fin de semaine à Lubumbashi et partout où vous écoutez Radio Okapi, c'est Panorama économique, la rétrospective de toute l'actualité économique de la semaine. Et cette semaine, nous recevons comme invité Philippe Alissa, il est le président du Fonds d'investissement de Congolais expatriés. Il est au bout du téléphone depuis la ville de Montréal au Canada et c'est avec lui que nous commentons et analysons l'actualité de la semaine. Philippe, vous venez de suivre cette deuxième partie de notre émission, cette saisie de 22 camions qui transportaient des minerais sur le point de traverser frauduleusement la frontière et aussi les routes qui sont en train de s'abîmer et s'abîmer encore à Goma et à Walikale et ça inquiète les populations.
Oui, le gouvernement est à blâmer dans ça. D'abord, le gouvernement, j'étais à Kinshasa, je dis, il ne permet pas que les particuliers arrangent les routes. Alors, on se demande si c'est un guet-apens adressé vers l'étranger pour qu'on puisse donner l'argent pour réfectionner les routes et puis on ne sait pas ce qu'on fait avec cet argent. Mmh. Et le gouvernement demande aux gens de donner l'argent pour que lui fasse, mais il ne le fait pas. Mais pourtant, je pense qu'il fallait quand même que les gens se mobilisent pour faire quelque chose.
Mais écoute, Philippe, dites-nous un peu. Alors, comme à Kinshasa, le gouvernement n'aime pas que les particuliers arrangent les routes, dites-nous un peu comment ça se passe chez vous dans le milieu où vous vivez. Il arrive aussi que le gouvernement accorde aux privés, aux particuliers, de réfectionner les tronçons de routiers.
Oui, mais je donne les... j'étais à Matadi, je dis comment il y a un endroit où il faut payer un péage. C'est-à-dire que le gouvernement peut faire quelque chose, et puis sur le chemin préventif. Mais ici au Canada, même aux États-Unis, nous avons des routes privées, comme en Chine, n'importe où dans le monde, où pour passer, il faut payer. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut quand même aller. Il y a les gens qui voyagent, le gouvernement, les membres du gouvernement voyagent, tout le monde voyage, mais tout le monde voit ce que ça vient, mais tout le monde ne veut pas copier, je ne sais pas pourquoi. Et puis ici, comme au Canada, on paye trop de taxes et le gouvernement fait tout. Mais s'il n'est pas mesure de faire, on fait des sous-traitances et ça donne de très bons fruits. On ne peut pas ignorer les infrastructures parce que c'est par là qu'il faut faire la redistribution, il faut la commercialisation, il faut qu'il y ait fluidité. Je voyage beaucoup presque chaque 3 semaines entre Montréal et Toronto pour aller au conseil d'administration. Je vois que de 3h du matin jusqu'à 6h du matin, il n'y a que des gros camions qui sont Toronto, 6h pour aller à Montréal pour livrer. Alors si les routes ne sont pas entretenues, ça pose vraiment un problème. Alors moi je pense vraiment que c'est à revoir, qu'on permette quand même à une certaine échelle que les particuliers puissent quand même arranger les routes. Le cas de Walikal, par exemple, il y a des machines ici qui concassent, parce qu'à Walikal, je vois que c'est une partie volcanique, il y a des machines qui peuvent facilement concasser toutes ces tiens-là pour les rendre en sable, en caillasse. Et avec ces caillasses-là, qu'est-ce qu'il faut pour le pont-là? Ça prend justement, ça prend des barres de fer, ça prend les bois, et puis s'il y a une crue, on fait ces routes-là beaucoup plus rapidement. Pourquoi ce qui est facile à faire, on est en train de priver? Pourquoi ce qui est facile à faire, on est en train de montrer que c'est impossible? Et ça décourage beaucoup les Congolais. Moi, je crois que dans le cas de maximiser les revenus, les recettes du gouvernement, et pour permettre aussi de créer la richesse, le gouvernement devait quand même accepter, malgré tout, qu'à un certain niveau, que les gens arrangent les routes eux-mêmes, et que les commerçants, je vois, même quand j'étais vers Avenue du 24, ils disent qu'ils veulent le faire, mais le gouvernement refuse. Alors ça, c'est un problème. Et si le gouvernement veut que, vraiment que les Congo jouent le rôle, qu'ils deviennent émergents, il faut quand même qu'ils ouvrent les vannes, qu'ils permettent certaines choses. Mais si tout est centralisé, il n'y a pas la délégation de pouvoir, je crois que le gouvernement est en train de faire son route.
Voilà. Et c'est aussi le moment de vous poser quelques petites questions, parce que vous êtes passé à Kinshasa le mois de décembre. Vous avez annoncé l'extension de vos activités, le fonds d'investissement de Congolais expatriés. Vous avez annoncé étendre ces activités jusqu'à Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de coups de fil. On pense que c'est Radio Capi qui a fait une annonce qui ne sera jamais réalisée. Et on vous a fait parvenir également les réactions de tous ces auditeurs qui ont suivi, qui vous ont suivi sur les antennes. Et comment vous réagissez à cette activité?
Oui, j'ai vu les réactions, merci beaucoup. On dit clairement que le fonds, c'est là pour rester. Vous pouvez, je recommande aux gens de lire l'article qui est parlé aujourd'hui dans le magazine African Bank. Ils vont comprendre ce à quoi nous pensons. La vérité est que pour avoir une représentation au niveau de la RDC, il faut que le conseil d'administration décide. Le 19 décembre, j'ai eu le mandat du conseil d'administration depuis Montréal, depuis Toronto, pour enregistrer. Et maintenant, le problème se pose pour les deux personnes que j'ai suggérées pour qu'ils soient des représentants. Parce que vous savez, nous, on n'aime pas la politique. Tout ce que nous avons pensé que c'est dans l'économie qu'on peut corriger le quotidien des Congolais. Et je dois défendre ce cas demain, le 30. Et une fois que j'ai l'approbation du conseil d'administration, les autres choses vont se faire beaucoup plus normalement. Et je crois même avant que je vienne pour le 7 février, tout devrait être fait. Mais c'est normal parce que on est au moins 15 administrateurs. Moi, comme président, je suis comme un guide. Je suis là pour orienter les choses, mais je ne peux pas m'imposer. C'est ça l'avantage du fonds d'investissement, c'est ça l'avantage des entreprises canadiennes. Et les investisseurs aiment comme ça, ils veulent mettre leur argent dans une structure qui a un conseil d'administration qui est régime, qui contrôle, qui ne peut pas permettre qu'on fasse n'importe quoi par le président. Alors, nous sommes dans ce schéma-là, qui comprend que ma culture canadienne est celle-là, mais l'arrangement a été fait. Maintenant, c'est la nomination, la désignation, ça va être entériné et ça va commencer. Mais entre-temps, ceux qui peuvent encore avoir besoin d'avoir des informations, je leur donne mon numéro de téléphone de Kinshasa pour que j'arrive le 17 février, c'est 082-77-72-831, je répète, 082-677-28-31, et je viens sur demande, invitation de l'ONU, pour participer à la conférence internationale sur les investissements privés. Alors, on n'a pas dit de...
Oui, vous dites, vous venez à Kinshasa sur invitation de l'ONU participer à la conférence internationale sur les investissements, c'est ça?
Oui, ça va se passer du 25 au 26, mais on a déjà eu des contacts avec certains partenaires financiers internationaux qui s'intéressaient pour voir comment on délève. C'est parce que nous, on a pensé que nous pouvons vulgariser des problèmes en Afrique ou dans tous les 13 pays des grands, là, c'est quoi. Oui, il y a eu des rivalités économiques, mais nous devons apporter une solution économique. Mais comment apporter une solution économique? Tous les gens, que ce soit les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens, les Angolais, tout le monde là sont des frères. Et ils ont leurs frères ici à qui on parle et avec qui nous sommes dans les affaires. C'est comme le fait que mes amis disent qu'ils ne s'attendent pas avec les Arabes, mais dans les affaires ils s'attendent. C'est que vous comprenez, c'est que dans les affaires on s'attend et puis vous allez voir les Syriens, je me suis délégué pour dire que vous pouvez prendre ma femme et vous ne prenez pas mon argent. Alors je crois que l'ONU a bien raisonné pour que nous puissions jouer quand même un certain rôle auprès de tous les pays des grands là à partir de la réunion qui va se voir, et nous avons déjà pris des mesures pour projeter une autre conférence au Parlement au mois d'avril ici, pour que quelqu'un se dise, alors on est déterminé à participer à la paix par la création de richesses, bien pour les Congolais et aussi pour tous les princes. Parce que je parle là, peut-être je me souviens une autre fois quand Sarkozy avait parlé pour dire que les Congolais doivent apprendre à partager. Les gens ont mal compris ça, mais quelqu'un est là, qu'est-ce que vous faites? Alors il faut avoir la paix des bras et il faut qu'on parle de cette dynamique-là qu'il faut partager, mais que ça puisse se faire dans l'ordre, que les Congolais ne soient pas vraiment envahis, que les gens qui peuvent le exploiter, que ce soit du Rwanda ou d'ailleurs, les fassent de manière lucide. Et que ça contribue à l'émergence économique. Et c'est ça le grand message. Et maintenant, nous allons nous convenir, puisqu'ils ont parlé des infrastructures, l'agriculture. Oui, nous avons trouvé tous ces équipements-là. Et nous pensons que par l'ONU, ça donne une garantie supplémentaire que le gouvernement congolais ou tout ce que là ne peut pas donner. Mais sous l'office de l'ONU, on parviendra à trouver un cadre qui convient pour que nous puissions profiter tous ces pays-là vers leur émergence en participant, en investissant dans des projets rentables.
Merci beaucoup Philippe Wallissa, 30 minutes, ce n'est pas assez pour tout dire. Merci de votre pour le temps que vous nous avez accordé pour commenter l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. On vous attend à Kinshasa, les auditeurs de Radio Okapi de Kinshasa, de la RDC vous attendent. Et très bonne fin de semaine à vous à Montréal.
Merci beaucoup, à bientôt.
À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radioocapi.net. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.